l'ange du Seigneur annonce à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur, et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Que ta grâce, Seigneur, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Radio Présence à Gourdon, 104.8.
12h, passé d'une petite minute à la pendule de Présence, et comme tous les jours, nous sommes ensemble jusqu'à 13h depuis les studios de Radio Présence Lourdes. Donc nous sommes à Lourdes sous le soleil qui nous fait l'honneur de partager cette heure que nous allons passer ensemble. Dans quelques minutes, la chronique verte de Benoît Guillard qui nous proposera un témoignage de trois agriculteurs qui sont soucieux d'ajuster leur activité professionnelle aux enjeux de la décarbonation, puisque Benoît Guillard propose un cycle sur la décarbonation dans ses émissions. Nous aurons le cours de cœur en librairie. Aujourd'hui, Nicolas Dargegène nous proposera un ouvrage de Paul Préau, En couple, se donner pour aimer. Nous aurons évidemment le journal de la mi-journée sur Radio Présence, et puis la chronique solidaire de Anne Deslois qui nous parlera aujourd'hui de la pastorale de la santé avec la responsable du diocèse de Tarbes-et-Lourdes, Sabine Barbecombe, aux alentours de 12h35. Et enfin, pour terminer cette heure que nous allons passer ensemble, nous aurons la joie de découvrir un auteur qui a écrit sur nos belles Pyrénées. En effet, Catherine Albrecht nous proposera un écrit de Hemingway qui est passé par Bayonne, si, il faut le savoir, et c'était il y a de cela quelques années. Voilà le programme de ce Présence Midi. Je vous propose de le débuter avec tout d'abord les titres des informations de ce jour.
Le professeur Charlotte Weiss, chirurgienne en oncologie, pionnière de sa discipline, a été nommée Toulousaine de l'année 2025. Elle était déjà la première femme nommée professeur des universités praticiens hospitaliers en chirurgie cancérologique en France. Elle occupe aujourd'hui le poste de coordinatrice médicale de la Fédération de cancérologie du CHU de Toulouse. Carole Delga organise le renouvellement du Conseil régional des jeunes et accueille les 60 nouveaux membres à Toulouse. Pendant 2 ans, les membres du CRJ seront ambassadeurs de la jeunesse occitane lors de différentes manifestations sur l'ensemble du territoire. Ils pourront formuler des recommandations, notamment en matière d'éducation, de transport, de lutte contre les discriminations et de transition écologique. La préfecture de Toulouse a rouvert ses portes au public. Un risque d'effondrement identifié sur un immeuble à proximité de la préfecture avait, par mesure de précaution, entraîné la fermeture temporaire de l'accueil du public sur le site Sainte-Anne le 27 janvier. Tous les usagers concernés par une annulation de rendez-vous les 27 et 28 janvier seront recontactés directement par les services préfectoraux afin de reprogrammer leur réception dans les meilleurs délais. Enfin, l'événement Les Petits Flambeaux est de retour cette année pour une 3e édition. Le 19 février, plus de 150 stations de montagne françaises, dont 20 dans les Pyrénées, s'unissent le temps d'une descente de flambeaux. Pour l'occasion, 20 000 flambeaux seront vendus afin de récolter des fonds pour les 3 associations bénéficiaires, Petit Prince, Génération Montagne et Enfance et Montagne. Pour acheter un flambeau, rendez-vous auprès du bureau ESF, de l'Office du Tourisme et des remontées mécaniques de la station participante.
La chronique verte, Benoît Guillard.
Chers auditeurs de Radio Présence, bonjour. Nous nous retrouvons cette semaine encore pour la chronique verte de Benoît Guillard. Cette semaine, j'ai fait le choix de revenir sur les deux interviews que j'ai pu mener les deux dernières semaines, à la fois l'interview de Sophie Villard pour la méthanisation agricole et la semaine précédente l'interview de François Coutant. agriculteur dans l'Astarac qui a fait le choix de l'agroécologie depuis plus de 20 ans. Et au travers de ces deux témoignages, je souhaitais effectivement continuer à parler de la décarbonation sur nos territoires et plus particulièrement la décarbonation des exploitations agricoles. Pourquoi ce sujet et pourquoi, chers auditeurs, vous sensibilisez à ces enjeux ? Tout simplement parce que l'agriculture est au cœur à la fois des enjeux climatiques, des enjeux d'alimentation, des enjeux aussi économiques sur nos territoires. C'est pourtant une agriculture en crise, nous le savons bien, et pourtant ces agriculteurs sont à la fois des contributeurs et mais aussi des victimes du dérèglement climatique. On comprend bien qu'ils ne demandent pas des injonctions supplémentaires, mais plutôt ils souhaitent un cadre clair, juste et accompagné. Et je voulais faire avec vous ce constat, partager ce constat. On le voit bien, ce changement climatique est réel et il fragilise nos exploitations agricoles. Pour autant, bien évidemment, de nombreuses pratiques agricoles stockent déjà du carbone dans les sols. On entend bien et ils le témoignent, nos agriculteurs sont souvent prêts à évoluer. Faut-il que leurs efforts soient reconnus ? Et je pense profondément que nous tous, collectivités que nous représentons, quelle que soit sa dimension, nous avons un rôle clé dans cela. Je vous propose cette semaine tout simplement d'écouter ou de réécouter, pour certains d'entre vous, des témoignages d'agriculteurs des Hautes-Pyrénées, de la Bigorre, que j'ai pu rencontrer dans ces deux dernières années et qui ont engagé, seul ou à plusieurs, une transition écologique réaliste.
Jean-Luc Mongevani, donc je suis agriculteur à Sarriac-Bigorre, sur une exploitation de 80 hectares avec un élevage de canards en prêt-à-gaver et un élevage en circuit court de poulets en vente directe. Une exploitation en culture en bio, culture maïs, soja, tournesol, colza, fèves-rôles, blé, donc diversifié. Je suis en bio depuis 2008 et je suis en culture agroécologique, enfin conservation des sols, depuis les années 2000. Mon objectif était créer un sol meilleur que celui que j'ai reçu. Travailler avec un sol qui n'est plus qu'un support, mais qui est aussi un acteur. Ce que j'espère, c'est continuer dans l'agriculture biologique, s'améliorer, mais qu'il y ait aussi une reconnaissance de la société et des pouvoirs publics cette agriculture-là, et qu'elle soit accessible à tout le monde, à tous les consommateurs. Et puis, mon désir, c'est aussi de transmettre cette exploitation pour qu'elle continue ce projet et demain pouvoir continuer cette mission.
Je m'appelle Michel Laglaise, j'habite à Saint-Tous. Il y a 25 ans, j'ai créé une CUMA, une coopérative d'utilisation de matériel agricole, sur trois villages, avec aujourd'hui, il y a 42 adhérents sur 1800 hectares. Nous avons mis le foncier et le matériel en commun. Presque plus aucune exploitation a des charges de mécanisation. Tout ça pour pouvoir rendre l'agriculture économiquement viable, parce qu'aujourd'hui, ce qui nous pèse beaucoup, c'est la mécanisation, et se donner une bonne conscience, puisque depuis 20 ans, nous sommes en agriculture agroécologique, c'est-à-dire que nous préservons la totalité de nos parcelles sans labour, avec des couverts végétaux, le maximum qu'on puisse faire pour notre belle nature, pour préserver un environnement fiable pour nos jeunes agriculteurs. Et j'espère que demain, il viendra des agriculteurs nous remplacer dans le même esprit. Mais ça devra se trouver. Merci.
Je m'appelle Yves Cassanier, je suis agriculteur sur 90 hectares dans les Hautes-Pyrénées à Ibos, près de Tarbes. J'ai une exploitation bio avec un élevage de porcs en naisseur-engraisseur. Une dizaine de truies. Tous les porcs sont vendus soit en direct à des clients fidèles, soit sur la boucherie que l'on a repris avec deux associés depuis l'année 2020 sur le marché de Bagnères. Je suis passé en bio en 2015 parce que ça correspondait plus à ma personnalité et à ma façon de voir l'agriculture. J'avais l'impression, quand le technicien venait, de voir mon médecin qui me faisait une ordonnance. J'ai 58 ans maintenant, j'ai mon fils qui est revenu sur l'exploitation, qui s'est installé avec moi depuis 2023. Et notre idée, son idée particulière, c'est de développer la partie céréales, vente de céréales en direct, ainsi que le fourrage et la paille pour les éleveurs du Piémont pyrénéen.
Je suis Guy Doléa, président de la SAS AgroGaz, qui est un collectif de 60 agriculteurs qui se sont engagés dans un projet de méthanisation agricole avec des objectifs de production d'énergie renouvelable à partir des fumiers et lisiers produits sur les élevages des 60 agriculteurs. Ce collectif a démarré la production d'énergie renouvelable en 2022. Il est aujourd'hui en montée en charge pour atteindre l'objectif qu'on s'est fixé de production de 310 normaux mètres cubes de biogaz qui est injecté dans le réseau de Tarbes.
Je suis Valérie Souler, je suis en charge au niveau d'AgroGaz de faire fonctionner l'unité de méthanisation. Ce qui est aussi essentiel dans le projet d'AgroGaz, c'est que le digestat qui est produit, il est géré de façon à respecter les règles environnementales, mais aussi dans un souci d'apport optimum pour la plante, pour ce qui est produit pour nourrir l'homme ou l'animal.
Ce projet a pour objectif donc de produire l'énergie renouvelable, mais également de répondre à toutes les problématiques liées à l'agriculture et liées à l'élevage, et à la demande sociétale de production d'énergie, de préservation de l'environnement et de limitation du réchauffement climatique.
Voilà pour cette chronique verte un petit peu particulière aujourd'hui, une chronique que vous pouvez retrouver, je vous le rappelle, sur le site de la radio, radioprésence.com. On se retrouve dans quelques instants pour le coup de cœur en librairie en compagnie de Nicolas Dargegène aujourd'hui.
To make those rainbows in my mind when I think of you sometime, and I want to spend some time with you, just the two of us. We can make it if we try, just the two of us.
Just the two of us.
Just the two of us. Building castles in the sky, just the two of us. You and I. We look for love, no time for tears. Wasted water's all that is, and it don't make no flowers grow. Good things might come to those who wait, but not for those who wait too late. We gotta go for all we know. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us.
Just the two of us.
Waiter's Bill sur Présence, Just the Two of Us.
Radio Présence à Moissac, 93.3.
Et on retrouve le coup de cœur en librairie cette semaine. C'est Nicolas Dargegen qui nous propose sa sélection.
Bonjour à tous. Je voudrais vous présenter aujourd'hui le livre « En couple, se donner pour aimer sans s'oublier soi-même », écrit par Dom Paul Préau et paru chez Arthège en 2025. Ce livre s'adresse aux couples, mariés ou en chemin vers le mariage, ou pour les célibataires qui pensent au mariage. Comme Dom Paul Préau l'écrit dans l'introduction de son livre, ce livre se veut un petit précis de l'amour conjugal, autant des joies comme autant des peines. Les épreuves à traverser dans votre vie conjugale ne manqueront pas. Votre couple et votre vie de famille auront des épreuves de toutes sortes à surmonter. On a dit avec un peu de malice, l'amour rend aveugle et le mariage donne la vue. Je pense que ce n'est pas totalement faux, mais de quelle vision parle-t-on ? Le premier regard que vous devez porter sur vous-même, c'est le regard de la foi. En vous mariant, en recevant le sacrement du mariage, vous avez reçu un don de Dieu, un don merveilleux qui vous est demandé de faire fructifier. Pour ce faire, il vous faut l'accueillir, le nourrir, le protéger et veiller à sa croissance. Ce sacrement du mariage n'est pas une convention sociale ou un contrat signé, un titre vide de sens, c'est bien plus que cela. C'est un don qui nous vient de Dieu pour la sanctification et le salut des époux. Les époux deviennent le signe visible de l'union sacramentelle qui lie le Christ à son Église. Après avoir rappelé ce qu'est le sacrement du mariage, Dom Paul Préau nous donne des éléments de compréhension du mariage. Le mariage, c'est se donner, et surtout tout donner, et pour se donner alors, il faut soi-même s'aimer, car il est compliqué d'aimer l'autre si on ne s'aime pas soi-même. Aimer son corps, comme l'écrit Dom Paul Préau. Un corps certes imparfait, vulnérable, peut-être blessé par la maladie, une déformation, le handicap, une blessure psychique. Ces blessures sont à accueillir et à intégrer dans notre vie. Sinon, nous risquons d'être incapables d'accueillir celle des autres. Il nous faut aimer son histoire, aimer celle de l'autre, car derrière chaque visage, il y a une histoire, il y a des personnes. Il y a un beau-père, une belle-mère, des beaux-frères ou des belles-sœurs. Ils sont partie prenante de l'autre. Dom Paul Préau le rappelle, dans la Genèse, il est écrit « L'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et tous deux ne formeront plus qu'un. » L'homme quittera. Il y a quelque chose que je dois quitter, une famille dont je dois me détacher pour m'attacher à mon conjoint. Mais je ne dois pas oublier que j'emporte mon histoire avec moi. On ne peut pas faire comme si elle n'avait pas existé. Il ne s'agit pas de mettre la poussière sous le tapis, avancer dans l'existence en masquant les zones d'ombre de mon passé. L'histoire de votre conjoint devient votre histoire commune. Aimer son esprit et son âme, prendre soin de son âme en puisant la force dans l'Eucharistie et dans la prière personnelle. Dom Paul Préau nous parle également du pardon, de la gratuité du don, mais il mentionne aussi les dangers que chaque couple peut connaître, l'usure, la déception et l'indifférence. L'usure entraîne l'acédie qui remplit d'amertume le fond de notre cœur. L'usure conduit souvent à la tristesse. L'usure n'entraîne pas forcément de la paresse. Elle entraîne parfois de l'activisme. Il y a là également un grand danger. S'agiter, se dépenser, se disperser, finalement, c'est une fuite du quotidien. Dom Paul Préau rappelle une remarque de saint Vincent de Paul à sainte Louise de Marillac. Il lui écrivait « Il y a une tentation subtile de l'ennemi de vous en faire faire toujours plus pour qu'à moyen terme, vous ne puissiez plus rien faire. » De nos jours, on appellerait cela un burn-out. L'activisme, c'est la plaie de notre vie intérieure. Comme des moulins à vent qui tourneraient sans rien produire, qui tournent à vide, qui brassent du vent et font beaucoup de bruit et fatiguent tout le monde. Dom Paul le rappelle « On a besoin de se donner à travers l'action. Mais est-ce pour édifier ou pour fuir ? Pourquoi ton service bénévole dans une telle œuvre caritative ou éducative te prend-il autant de temps ? Que cherches-tu ? La charité ? La charité a ses priorités. Le couple est au sommet de la liste. La famille ensuite et les activités après. L'usure conduit à l'épuisement, c'est-à-dire à une activité qui n'est plus rattachée à la source intérieure. Soufflez, reposez-vous, reposez-vous l'un sur l'autre, entrez dans le repos de Dieu. L'autre danger, la déception. Se rendre compte que l'autre aussi a ses défauts. Le mariage est une école du réel. Dom Paul l'écrit, les années sont nos ennemis ou vos alliés, selon ce que vous ferez de la connaissance plus intime que vous aurez l'un de l'autre, de la connaissance en profondeur, tant de vos qualités que de vos défauts, de vos limites. Enfin, le dernier, le plus triste des trois dangers, c'est l'indifférence. Comme l'écrit Dom Paul Préau, tant qu'il y a de la colère, tout n'est pas désespéré. Mais l'indifférence, c'est vraiment dramatique. L'indifférence, c'est marcher l'un et l'autre sur des sentiers parallèles. C'est ne plus se parler, échanger simplement en se laissant des post-it sur le frigidaire. L'indifférence peut être passagère chez l'un ou chez l'autre. Mais les dangers peuvent être contrés par des gestes de pardon, en apprenant à pardonner et à demander pardon, mais aussi par la culture nécessaire de l'humilité. Et surtout, ce qui va faire tenir le couple, le cimenter, c'est la prière. La prière en couple, bien entendu, mais celle-ci ne doit surtout pas remplacer ou annuler la prière personnelle. Dont Paul le rappelle plusieurs fois dans son essai, la prière personnelle, le cœur à cœur personnel avec Dieu, est indispensable pour un couple. Les conjoints sont appelés à ne faire plus qu'un dans le mariage, c'est vrai, mais chacun reste un être unique et original. Le conjoint ne s'interpose pas dans ma relation intime avec le Seigneur, ni dans ma relation intime avec moi-même. Nous devons trouver des moments de silence, sans musique ni communication, sans portable, tablette ou autre écran. Mais notre société n'aime pas le silence. Le silence est pourtant la condition nécessaire à la fécondité de l'esprit. Plus une société est sonore et moins elle pense. Or le monde a besoin de chrétiens qui pensent. Le Seigneur ne nous a pas demandé de sacrifier notre intelligence. Il faut prendre du temps nécessaire à la réflexion, prendre des moments de solitude. Comme l'écrit Don Paul Préau, « Je me dis toujours qu'une vie commune sans un minimum de solitude est guettée par l'épuisement affectif. » Voilà pourquoi il nous conseille de nous obliger à trouver des moments de solitude ouverts à Dieu pour lui parler et le laisser nous parler. Don Paul Préau appelle cela des SOS, des solitudes ouvertes au Seigneur. Pour y penser, il nous conseille de l'écrire sur un post-it sur le frigidaire. SOS, SOS, ces solitudes ouvertes au Seigneur sont urgentes, indispensables, la solitude n'attend pas. C'est un bel ouvrage que ce petit essai écrit par Don Paul Préau, il se lit rapidement. Bien entendu, ce n'est pas un guide pour réussir sa vie de couple, ni un remède miracle pour sortir d'une situation difficile de couple, car tout couple est unique, toute histoire est originale et aucun ne se ressemble. Mais cet essai nous permet de mieux réaliser quels sont les repères pour aimer en vérité, quels sont les pièges à éviter face aux routines, aux épreuves et aux désillusions. Et comment nous pouvons nous appuyer sur le sacrement du mariage pour entretenir notre amour. Comme le dit le quatrième de couverture, c'est un précis pour guider tous les couples et qui leur rappelle la beauté de leur vocation. En couple, se donner pour aimer sans s'oublier soi-même par Don Paul Préau, paru aux éditions Arthège, est en vente à la librairie du Sanctuaire de Lourdes et dans toutes les librairies.
Une chronique que vous retrouvez également sur le site de la radio. Dans quelques instants, il sera 12h27, l'heure du grand journal de la région. Juste après, je vous propose Diana Krall, Just the Way You Are.
Don't imagine you're too familiar. And I don't see you anymore. I would not leave you in times of trouble. We never could have come this far. I took the good times, I'll take the bad times, I'll take you just the way you are. Don't go trying some new fashion, don't change the color of your hair. Spoken passion, although I might not seem to care. I don't want clever conversation, I never want to work that hard. Just the way you are. I need to know that you will always be the same old someone that I knew. Oh, what will it take till you believe in me the way that I believe in you.
I promise from the heart. I just want someone that I can talk to. I want you just the way you
à Montréjo 94.1.
Et comme prévu, eh bien, il est 12h27, la pendule de présence, très très bon appétit et très belle journée à l'écoute de nos programmes. Nous sommes en plein cœur du Présence Midi, que je vous propose de continuer avec le journal de la mi-journée.
Le professeur Charlotte Weiss, chirurgienne en oncologie, pionnière de sa discipline, a été nommée Toulousaine de l'année 2025. Elle était déjà la première femme nommée professeure des universités praticien hospitalier en chirurgie cancérologique en France. Elle occupe aujourd'hui le poste de coordinatrice médicale de la Fédération de cancérologie du CHU de Toulouse. Cette année, deux femmes de l'établissement de santé figuraient parmi les 15 personnalités proposées pour le titre de Toulousaine de l'année. Le professeur Charlotte Weiss a reçu le trophée remis par la Dépêche du Midi. D'autre part, le docteur Marion Vergniaud, médecin légiste et responsable de la Maison des Femmes Toulouse-Occitanie-Ouest, a également été félicité pour son engagement humain au service des patients. Carole Delga organise le renouvellement du Conseil Régional des Jeunes et accueille les 60 nouveaux membres demain. La région Occitanie procédera au renouvellement du Conseil Régional des Jeunes 2 ans après son installation. Carole Delga, présidente de la région Occitanie, Kamel Chibli, vice-président délégué à l'éducation, à l'orientation, à la jeunesse et au sport, et Guillaume de Almeida Chavez, conseiller régional délégué de la jeunesse, accueilleront les 60 nouveaux membres de cette instance de concertation imaginée par et pour les jeunes d'Occitanie. Pendant 2 ans, les membres du CRJ seront ambassadeurs de la jeunesse occitane lors de différentes manifestations sur l'ensemble du territoire. Ils pourront formuler des recommandations, notamment en matière d'éducation, de transport, de lutte contre les discriminations et de transition écologique. 10 anciens membres seront présents ce samedi 31 janvier pour passer le flambeau et revenir sur leurs 2 années en tant qu'ambassadeurs. Hier, la préfecture de Toulouse a rouvert ses portes au public. Un risque d'effondrement identifié sur un immeuble à proximité de la préfecture avait, par mesure de précaution, entraîné la fermeture temporaire de l'accueil du public sur le site Sainte-Anne le 27 janvier. L'accès en a été partiellement réaménagé pour tenir compte du rétrécissement temporaire de la chaussée à l'angle des rues Sainte-Anne et Saint-Jacques, imposé par la sécurisation du site. Pour rappel, l'accueil en préfecture s'opère uniquement sur rendez-vous. Et tous les usagers concernés par une annulation de rendez-vous les 27 et 28 janvier seront recontactés directement par les services préfectoraux afin de reprogrammer leur réception dans les meilleurs délais. Enfin, l'événement Les Petits Flambeaux est de retour cette année pour une 3e édition. Le 19 février, plus de 150 stations de montagne françaises, dont 20 dans les Pyrénées, s'unissent le temps d'une descente de flambeaux. Plus de 100 000 personnes sont attendues pour cette opération menée afin de faciliter l'accès aux montagnes pour les enfants. Et grâce aux dons récoltés lors de ces 2 dernières éditions, ce sont déjà plus de 1 000 enfants qui ont pu réaliser leurs rêves. Cette année, France Montagne et ses 3 membres fondateurs ont créé un partenariat entre les monitrices et moniteurs des ESF, autrement dit l'école de ski française, les équipes des remontées mécaniques et les offices de tourisme des stations. Pour l'occasion, 20 000 flambeaux sont vendus afin de récolter des fonds pour les 3 associations bénéficiaires, Petit Prince, Génération Montagne et Enfants de Montagne. Pour acheter un flambeau, rendez-vous directement auprès du bureau ESF, de l'office de tourisme et ou des remontées mécaniques de la station participante.
Et nous poursuivons le programme de ce Présence Midi avec la chronique solidaire de Anne Deloire.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission Solidairement Vôtre. Aujourd'hui, nous allons parler d'un engagement discret mais essentiel. Et pour parler de cet engagement, c'est auprès de l'aumônerie catholique des hôpitaux et j'ai la choix et la grande chance d'avoir au micro de Radio Présence Elisabeth Lemierre. Elisabeth, bonjour.
Bonjour.
Donc vous êtes aumônier à la fois de l'hôpital de Bagnères, l'hôpital d'Astug et puis aussi à l'EHPAD Castelmoli à Bagnères de Bigorre, bien sûr. Et avec vous, Elisabeth, un témoignage. Vous êtes depuis combien d'années au service de l'aumônerie ?
Ça fait 9 ans et demi.
Alors, comment, justement, vous êtes arrivée dans cette mission ? Qu'est-ce qui vous a conduite à accepter cette mission ?
Alors, c'est un appel du diocèse. C'est un appel de Monseigneur Brouvet, à l'époque, quand je suis arrivée sur Lourdes, qui m'a reçue et qui, en fait, alors que j'avais une expérience qui était exclusivement en pastorale des jeunes, que je venais de finir une formation de théologie qui était plus tournée sur le catéchuménat, la catéchèse et la formation permanente, qui, en fait, m'a proposé ce poste à l'hôpital de Bagnères pour prendre la suite de quelqu'un qui avait posé une année de disponibilité. C'était très loin de ce que je pouvais imaginer en termes de mission. Je ne savais pas si j'étais faite pour ça, pas du tout. Et dans le discernement du cœur, dans la prière et aussi avec mon accompagnateur, tout ça en quelques jours, je me suis dit que c'était un appel de l'Église et que c'était pour un an et que donc fallait tenter. Et puis si vraiment c'était pas mon appel, et ben au bout d'un an, je l'aurais dit.
Alors justement, Elisabeth, on va rentrer concrètement dans votre mission. Qu'est-ce que signifie être aumônier des hôpitaux ?
Un aumônier d'hôpital, en fait, dans la loi française, ne fait pas de prosélytisme. C'est-à-dire qu'on ne répond qu'aux demandes d'accompagnement pour les patients des hôpitaux ou les résidents des EHPAD. Demandes d'accompagnement qui sont exprimées soit par le patient lui-même ou le résident lui-même, soit par les infirmiers, infirmières, cadres qui ont repéré que la personne était croyante, soit par la famille, soit par la paroisse qui avait l'habitude de visiter, notamment pour les gens en EHPAD ou même les gens qui rentrent à l'hôpital, qui avaient l'habitude qui connaissaient les paroissiens ou qui allaient les voir à la maison pour les gens âgés et qui disent maintenant ils ont été institutionnalisés, comme on dit aujourd'hui, pour les EHPAD, et du coup qui nous signalent les gens. Donc en fait, le premier biais, c'est la rencontre avec la personne qui nous a été signalée. Donc on ne tape pas aux portes, on va rencontrer des gens qui nous ont été signalés. La rencontre avec la personne à hauteur d'humanité, hein, voilà, très simplement, comment allez-vous, on se présente, on voit si la personne est en capacité de pouvoir nous accueillir ou si elle est trop fatiguée ou si on tombe mal parce qu'il y a un soin ou etc etc, si elle a envie aussi de nous accueillir, elle nous accueille. La chambre d'hôpital, c'est un chez soi. C'est comme si nous frappions une porte de c'est maison vrai. Donc si elle est ok pour nous accueillir, et puis nous accueillons ce qu'elle partage.
Concrètement, justement, qu'est-ce que l'aumônerie de l'hôpital propose auprès des malades, auprès des familles? Est-ce qu'il y a des fois des célébrations? Dites-nous un petit peu de, justement, comme vous vivez ce rôle avec votre cœur, votre proximité avec les malades, avec les aidants, avec la famille. Qu'est-ce que concrètement l'aumônerie propose?
Le cadre de l'aumônerie est bien défini par la loi 1905 de séparation de l'Église et de l'État, et puis est bien défini aussi dans les textes officiels des hôpitaux. C'est-à-dire que nous sommes là pour un accompagnement spirituel, dans lequel il y a le religieux, mais pas que. Le religieux fait partie du spirituel, mais le spirituel est plus large que le religieux. Et dans le religieux, pour nous, il y a la religion catholique qui est la nôtre. Donc en fait, nous sommes là pour rencontrer les personnes qui ont envie de partager sur ce qu'elles vivent de très profond. C'est-à-dire toutes les questions de leur vie, de la souffrance, de la maladie, de parfois la mort qui approche quand on est dans l'accompagnement du grand âge. Et puis des joies aussi, bien sûr. Et puis, au bout d'un moment, nous demandons à la personne si elle n'a pas encore dit si elle est croyante. Et si elle est croyante, alors nous faisons une proposition de foi qui peut être une proposition de prière, de participation à la messe. À l'hôpital de Bagnères, nous avons la messe toutes les semaines et on peut y emmener les patients. Et Astug et l'IPAD Castelmouli, c'est tous les 15 jours. Donc nous leur proposons aussi la participation à la messe pour ceux qui sont catholiques, s'ils le veulent, s'ils le peuvent. On va les chercher, mais quand les gens sont alités ou pas en forme, bon, bah, c'est pas possible. Du coup, bah, s'ils peuvent pas, on peut leur proposer, s'ils étaient pratiquants, de pouvoir prier ensemble et communier ensemble. Nous faisons aussi parfois des propositions de sacrements. Et donc là, nous appelons les aumôniers d'hôpitaux, soit le prêtre qui est rattaché à l'hôpital, soit le curé de la paroisse. Pour ma part, c'est le curé de la paroisse, pour un sacrement de réconciliation, quand les personnes le demandent ou quand on est amené à leur proposer, parce qu'on sent qu'il y a un gros poids sur le cœur. Mmh. Parfois, on les accompagne aussi dans cette démarche avant de pouvoir le vivre avec le prêtre. Et puis, bien évidemment, le sacrement de l'onction des malades. Voilà, et que nous proposons assez largement, les gens ayant toute liberté de dire oui, non, pas encore, je réfléchis, j'en parle à ma famille, j'en parle aux enfants, bon, voilà.
À travers ce que vous nous dites, Elisabeth, on sent bien quand même que entrer dans un hôpital, dans un EHPAD, c'est vraiment entrer dans des lieux chargés d'émotions. Qu'est-ce que cela demande humainement, le fait d'être présente pour vous, auprès des personnes malades?
Alors en fait, la première chose déjà, je suis désolée de rappeler ces données, mais qui sont basiques, c'est de se dire que nous exerçons dans un cadre, nous ne sommes pas dans notre paroisse. Un théologien de la laïcité, un prêtre, écrivait, quand nous exerçons dans le cadre de la laïcité, nous habitons la maison des autres. Donc la première chose, c'est de ne jamais oublier que nous sommes dans une structure qui a ses règles, qui a son rythme de vie. Voilà. Ce qui permet d'avoir des relations très pratiques, parfois très professionnelles, parfois très amicales avec le personnel aussi, bien évidemment. Hein? Voilà. Ensuite, dans le rapport aux patients, aux résidents, la première qualité, évidemment, c'est l'écoute. Nous y sommes toujours formés avant de commencer cette mission. Une écoute large, bienveillante, sans projection. Voilà, être prêt à la fois à tout entendre, tout accueillir, sans poser de jugement. Parce que nous sommes sur une terre sacrée, qui est la terre sacrée de la vie de l'autre. Et du coup, voilà, nous accueillons ce qui arrive. Et puis, nous sommes habitués aussi à l'écoute non verbale. Hier, j'ai été appelée pour quelqu'un qui se prépare à aller voir le Seigneur, qui ne pouvait plus parler, mais qui répondait avec ses yeux. Et donc, nous sommes habitués à entrer en communication avec des gens qui répondent avec leurs yeux ou pour lesquels on ne sait pas s'ils entendent vraiment bien ce qu'on dit quand c'est des accompagnements de fin de vie. Mais nous savons que la personne est là et nous entrons dans une vraie relation.
Ah oui, vous partagez vraiment des moments exceptionnels dans votre mission. Est-ce qu'il y a l'un ou l'autre événement marquant que vous pouvez nous partager?
Je pense à deux moments, un vécu à l'hôpital, j'accompagnais une dame qui se préparait à partir au ciel et qui était déjà dans un certain coma, même si aujourd'hui c'est compliqué de bien définir le coma. Donc on m'appelle encore une fois, mais la famille me dit, oh, vous savez, elle répond plus, mais on est vraiment content que vous soyez là. Et puis la famille est occupée avec une soignante, et du coup moi je vais prier avec cette dame, et cette dame couchée sur son lit qui semblait dormir, et je lui dis, bah, comme d'habitude, on va prier ensemble, comme on a fait depuis longtemps déjà. Et puis au moment où je commence la prière, en posant la main sur sa main, parce qu'on dit que le toucher est le dernier sens que nous perdons, cette dame incroyablement s'est redressée dans le lit, au milieu d'une autre paire. Du coup, moi, j'étais tout étonnée et je me suis arrêtée. Vite, je me suis reprise, je me suis dit continue. J'ai glissé mon bras derrière elle pour la soutenir. Et elle a fixé le mur, elle a ouvert les yeux, elle a fixé le mur qui était en face. J'ai continué la prière. J'ai enchaîné avec un « Je vous salue, Marie » et j'ai senti qu'elle se détendait et je l'ai réaccompagnée pour s'allonger. Et cette dame a de nouveau fermé les yeux. Pour moi, elle a fait la rencontre du Seigneur à ce moment-là, vraiment. Elle a vu le Seigneur. Et en sortant, j'ai dit à l'infirmière, tu sais, il n'y en a plus pour longtemps. Elle m'a dit, oh, tu sais, ça fait déjà plusieurs jours. Je lui ai dit, je te promets, il n'y en a plus pour longtemps. Je ne peux pas aller plus loin, mais il n'y en a plus pour longtemps. Quelques heures après, cette dame est partie. Ça, c'est incroyable.
Merci Elisabeth, c'est un beau témoignage que vous nous partagez. J'en suis vraiment très émue. Et je vous remercie vraiment d'avoir donné votre témoignage dans cette émission aujourd'hui. On se rend compte que vous vivez un service très discret, mais profondément humain. On se dit à une prochaine fois.
Oui, je me permets un tout petit mot. Ce qui est très important aussi pour nous, c'est les bénévoles qui font équipe avec nous. Hein, voilà, l'aumônier n'est pas seul. L'aumônier est avec des bénévoles qui font équipe et qui partagent exactement la même mission que nous.
Merci Elisabeth, à une prochaine fois.
Voilà, au revoir.
Et dans quelques instants, un auteur sera mis à l'honneur par Catherine Albrecht, un auteur qui a arpenté nos belles Pyrénées, juste après le groupe Native.
Amour ou démon, qui n'était qu'illusion, quand ce rêve m'emportait, ne pouvant m'en défaire, avec plus de temps. Pour se comprendre, savoir si l'on s'aimait avant que la mort te libère. Je sais, je n'ai pas le droit de penser à toi comme ça, mais le ciel n'emportera qu'un peu de lumière de toi. Tu planes sur
à Auch 89.6. Et comme tous les vendredis, nous découvrons donc un auteur qui s'est pris de passion pour nos belles Pyrénées. Aujourd'hui, nous partons direction Bayonne, puisque c'est Hemingway qui est à l'honneur aujourd'hui avec Catherine Albrecht.
Du Pays Basque au rivage de la Méditerranée, les Pyrénées ont inspiré quantité d'écrivains célèbres. Ces monstres sacrés de la littérature évoquent avec talent les panoramas d'exception, leurs souvenirs d'enfance, leurs aventures dans les sites fameux des Pyrénées. Écoutez, voyagez, rêvez, vibrez, admirez, aujourd'hui avec Ernest Hemingway. Ernest Hemingway, auteur du best-seller « Le vieil homme et la mer », est un écrivain américain lauréat du prix Nobel de littérature. En 1918, à l'issue de ses études secondaires, il réussit à se faire embaucher comme journaliste et rejoint l'Europe en guerre. Réformé par l'armée américaine, il s'engage comme ambulancier à la Croix-Rouge italienne et il est gravement blessé sur le front de Vénétie. On le retrouve correspondant de presse à Paris dans les années 1920, où il fréquente les écrivains américains exilés dans la capitale française, Fitzgerald, Steinbeck, Dos Passos. C'est pendant ces années qu'il va découvrir l'Espagne et le Pays Basque, où il séjournera plusieurs étés avec quelques amis de la génération perdue. Séduit par le mode de vie et les paysages, il choisit ses villégiatures au gré des fiestas, ferias et corridas, entre deux parties de pêche dans les torrents de montagne. Si les fêtes de la Saint-Fermin et Pampelune furent son port d'attache, il fréquenta aussi Saint-Sébastien, Bilbao, et assista souvent aux corridas de Bayonne. C'est cette période où il brûlait la chandelle par les deux bouts qu'il évoque dans Le soleil se lève aussi en 1926, son premier grand succès. Le matin, le ciel était clair et on arrosait les rues de la ville. Nous prîmes tous les trois notre petit déjeuner dans un café. Bayonne est une jolie ville. Elle ressemble à une espagnole très propre et elle est située sur une grande rivière. Bien qu'il fût de bonne heure, il faisait très chaud sur le pont au-dessus de la rivière. Nous nous engageâmes sur le pont, puis nous fîmes un tour dans la ville. Nous nous arrêtâmes sur la place au café où nous avions déjeuné et nous prîmes une bière. Il faisait chaud. Mais la ville avait une bonne odeur de fraîcheur matinale et il faisait bon au café. La brise se levait et on pouvait sentir que l'air venait de la mer. Il y avait des pigeons sur la place et les maisons avaient une couleur jaune, recuite au soleil, et j'aurais voulu rester au café. Mais il nous fallut aller à l'hôtel pour faire nos valises et payer la note. Cohn descendit enfin et nous nous rendîmes à l'auto. C'était une grande voiture fermée. Le chauffeur avait un cache-poussière blanc. Le col en était bleu ainsi que les parements des manches. Nous lui demandâmes de rabattre la capote. Il empila les valises et, remontant la rue, nous sortîmes de la ville. Nous passâmes devant des jardins charmants et en nous retournant, nous eûmes une bonne vue d'ensemble de la ville. Puis ce fut la campagne, verte, ondulée, et une route qui montait tout le temps. Nous croisâmes beaucoup de Basques avec des bœufs et autres animaux qui traînaient des charrettes sur la route. Il y avait de jolies fermes, blanchies à la chaux, avec des toits qui descendaient très bas. Dans le Pays Basque, la campagne semble très riche et très verte, et les maisons et les villages paraissent riches et propres. Chaque village possède son terrain de pelote, sur lequel parfois des enfants jouaient en plein soleil. Sur les murs de l'église, il y avait un écriteau défendant d'y jouer à la pelote. Et dans les villages, les maisons avaient des toits en tuiles rouges. Puis la route tourna et commença à monter, et nous grimpâmes un flanc de coteau avec une vallée dans le bas et des collines qui s'étendaient derrière nous vers la mer. On ne pouvait pas voir la mer, elle était trop loin. On ne pouvait voir que des collines, toujours des collines, mais on savait où se trouvait la mer. À travers les mots, les regards inspirés par nos belles Pyrénées, nous avons pu apprécier le talent d'Ernest Hemingway. Merci à Jean-Paul Azam pour son anthologie littéraire illustrée intitulée « Mots et merveilles des Pyrénées » inspirant tous mes récits.
Cheiro de coisa maluca.
l'Albinque, 92.5.
12h54 à la pendule de présence. C'est avec cette chanson que nous achevons ce présence midi que nous avons passé ensemble. Je vous laisse donc en compagnie de cette belle chanson bien jazzy pour terminer cette heure. Je vous rappelle simplement la prière du chapelet à 15h30 pour toutes vos intentions sur Radio Présence. C'est tous les jours, 7 jours sur 7, du lundi au dimanche. Excellente journée à l'écoute de nos programmes.
10 feet tall, sunny one, so true, I love you. Sunny, thank you for the truth you let me see. Sunny, thank you for the facts from A to C. My life was strong like a wind blows sand, and the rock was firm when you hit my hand. Oh, sunny, what's so true? I really love you.
Radio Présence à Millau 106.5.
Radio Vatican.
Le journal.
Le journal.
Accord global conclu entre le régime syrien et les Kurdes. À terme, les forces